des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin.
Nous retomberons sur nos pieds, si j'ose dire, avec cette deuxième émission sur les rites. Si la dernière fois nous avions commencé par la fin, c'est-à-dire nos sociétés modernes où le rite a beaucoup perdu de son importance, il convient de rappeler ici d'où nous venons. À quand remonte le rite ? Question qui restera probablement sans réponse. À Teviec, petite île située à l'ouest de la presqu'île de Quiberon, la découverte d'une nécropole datant du Mésolithique, c'est-à-dire 5400 ans avant Jésus-Christ, donne une petite idée des rites de nos ancêtres. Explication de Grégoire Marchand, archéologue, laboratoire archéosciences de l'Université de Rennes, dans une vidéo proposée par la chaîne L'Espace des Sciences.
Alors les fouilles de Marthe et Saint-Just-Pécard ont révélé en fait une complexité de rites funéraires assez extraordinaire qui reste pour l'instant à l'échelle du Mésolithique européen parmi les plus complexes que l'on connaisse, parce qu'il y avait effectivement le creusement dans l'habitat, dans un niveau d'habitat d'une fosse qui était grossièrement aménagée avec des galets. Ensuite, le corps du défunt était inhumé en position allongée, assise, recroquevillée, mais avec toujours les jambes repliées sur le corps. Le corps était habillé, visiblement. Il avait une parure également, des parures de coquillages extrêmement riches, notamment probablement des résilles de coquillages sur la tête. Le corps était systématiquement saupoudré d'ocre. Des objets étaient déposés sur ce corps, notamment des grands stylets qui étaient des espèces de pointes qui sont façonnées dans des perronnées de mammifères. Ça peut être du sanglier, ça peut être du chien. Et puis, sur ce corps étaient déposées une ou deux dalles. Sur la dalle, on avait un foyer rituel dans lequel on a systématiquement retrouvé des mandibules de sangliers ou de cerfs. Alors pourquoi ces espèces, je ne sais pas, ça a des références évidemment avec les mythes de ces populations. Et sur ce petit foyer a été érigé un petit cairn de pierre. Et à chaque nouvelle inhumée, ce dispositif était détruit et reconstruit. Ce qui fait qu'on a vraiment une succession de gestes qui est systématique et qui est assez intéressante. J'ai oublié également en fait une parure en bois de serre qui était souvent posée sur certains défunts, deux tombes à Teviec et puis beaucoup plus à Édic.
Les rites, voici le sujet de notre nouvelle série d'émissions en compagnie, bien entendu, du docteur et psychanalyste Dominique Demichel. Dominique, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors, il y a 15 jours, nous avons vu que les rites n'étaient pas nécessairement religieux. Néanmoins, le rite funéraire est d'une importance capitale. En tout cas, on en retrouve des traces encore aujourd'hui, comme nous avons pu l'entendre. C'est quelque chose d'assez impressionnant.
Oui, je trouve que c'est le petit extrait là que vous venez de passer est vraiment, vraiment tout à fait enrichissant. Ça évoque plein de choses. D'abord, probablement que de manière extrêmement ancienne, les rites ont existé. Que les rites funéraires sont des choses extrêmement importantes. Il n'est pas d'ailleurs du tout impossible que les premiers rites soient avant tout des rites funéraires. On voit, semble-t-il, d'après ce que dit ce monsieur, qu'il y avait quelque chose qui est déjà extrêmement élaboré.
Oui, très codifié également, il semble. Hein, ouais.
Tout à fait. Je trouve que c'est vraiment intéressant qu'il renvoie à la question, dans son commentaire, à la question des mythes. Hein, il dit pourquoi des sangliers, pourquoi... Voilà. Il n'est pas du tout impossible qu'il y ait eu à cette époque-là un dieu sanglier, par exemple, hein, ou qu'il y ait, je ne sais pas trop quoi, une figure particulière dans le panthéon de ces peuples-là, c'est-à-dire l'ensemble des dieux, qui comporte un sanglier. Autre chose qui me semblait aussi tout à fait riche, c'était de cette notion de construction puis de destruction, de construction et de destruction. Ça renvoie à ces petits mots simples que j'aime bien rappeler, hein, le rite, c'est ce qui assure la continuité. Comme si, au fond, au sein même du rituel, on retrouvait cette question de la vie qui vient, puis la vie qui disparaît, puis la vie qui revient, puis la vie qui disparaît. Mais qu'au fond, dans cette mémoire qui est mise en scène par une génération à propos de ses parents ou de ses grands-parents. Il y avait la nécessité d'assurer la continuité de la mémoire, de la continuité de l'histoire. Et je repensais, je ne connais pas ça très très bien, mais je le sais un petit peu, à ces temples japonais, par exemple, qui sont construits pendant un certain nombre de décennies. Puis ensuite, ils sont détruits et ensuite, on les reconstruit. Probablement un petit peu à l'identique, et puis avec aussi le génie du temps, le génie du lieu, le génie de l'époque où il est reconstruit.
Alors, docteur Dominique Desmichel, comme nous sommes encore au début de cette série, arrêtons-nous un petit peu sur les origines des rites, avec ce petit extrait de cet archéologue. Aujourd'hui, évidemment, on n'en a que la surface, on n'en a on ne retrouve que quelques traces, mais le sens lui-même du rite, évidemment, il ne reste pas visible. Il est parti avec, il a disparu avec la disparition de ces hommes-là. Je vous pose la question parce que, en étant psychanalyste jungien, les archétypes qui sont mis en lumière par Jung, ne sont-ils pas aussi, des ponts? Ne créent-ils pas des ponts entre nos lointains ancêtres et nous, dans la mesure où nous sommes tout à fait capables d'interpréter aujourd'hui ces rites dont nous venons de parler?
Alors, il y a plein de choses dans votre question. Alors, je ne sais pas très bien par quel bout la prendre. Il me semble que c'est une vraie question de savoir si les mythes ont précédé les rites ou si les rites ont précédé les mythes. J'aurais un petit peu de tendance à penser que comme l'enfant extrêmement, extrêmement tôt invente des rites bien avant d'avoir un récit de sa propre histoire ou de l'histoire familiale, que peut-être les rites ont préexisté. Voilà. Dans le sens où la psychogénèse d'un enfant renverrait à la phylogénèse, c'est-à-dire la genèse des espaces et des espèces, pardon, et renverrait peut-être à une sorte d'ontogénèse, c'est-à-dire aussi du développement de l'être. Hein. Voilà. Donc l'enfant, il invente ses rites. Tout le monde sait que voilà, on a eu des enfants, ou parmi les auditeurs, il y en a qui ont eu des petits-enfants et qui savent bien que le soir, par exemple, avant d'aller se coucher, et on va aller faire pipi, on va aller se brosser les dents, on va aller demander un petit bisou, puis un deuxième bisou, puis ensuite on a un petit peu froid, puis ensuite on a un petit peu mal au bout du nez. Et toutes ces petites choses sont des rites qui sont là pour assurer une forme de continuité entre le jour et la nuit, entre la certitude et la sécurité d'un côté, et puis l'incertitude de l'autre, l'apparition de l'angoisse du soir, de l'angoisse de la nuit. Donc ça renvoie tout ça aussi à la question un peu de la mort, par exemple. Donc je crois qu'en effet, le rite s'inscrit au sein de l'espace sacré et profane, et que le lien des rites avec le sacré, on pourrait dire avec le lumineux, hein, c'est-à-dire tout ce qui vient nous saisir, est quelque chose de très important. Il y a deux espaces particuliers, deux champs particuliers dans lesquels se développe le rite, un champ rituel assez large finalement, où le rite peut être compris comme un ensemble d'habitudes, voilà, comme un ensemble de coutumes, et puis un sens plus strict du rite, où là, il est vraiment associé à une cérémonie, comme dans le chamanisme. Mais on sait bien que tous ces rituels sans vraie sacralité jalonnent nos quotidiens. Je disais ça juste il y a quelques instants à propos du rite du soir, mais la majorité d'entre nous, le matin, quand on se réveille, on a des rites. Voilà, on se lève et puis, je ne sais pas trop quoi, on parle avec son conjoint ou on parle avec ses enfants ou on va préparer le petit déjeuner. Et voilà.
Vous les mettez au même niveau que les rites sacrés?
Je pense que sur le plan de sa signification profonde, oui. Il y a quelque chose d'un rapport au temps et que ces rites sont là pour assurer une continuité. Ils assurent une continuité et à la fois ils nous permettent de faire un gain d'énergie. Le matin, le temps de se réveiller, le temps que nos surrénales sécrètent un petit peu de cortisol pour qu'on soit bien en forme et bien au top, eh bien, on économise de l'énergie en ayant des petites choses qui nous permettent de ne pas trop penser. Et on va mettre la bouilloire, on va sortir la confiture, on va couper le pain, on va faire des choses comme ça. Mais ça, c'est au premier degré une fonction, on pourrait dire, utilitaire. Mais il y en a une autre qui est au fond presque d'ouvrir la journée avec quelque chose qui est de l'ordre du su, qui est de l'ordre du connu, qui est de l'ordre du repéré. Et donc ces repères-là, en quelque sorte, sont là pour presque nous souhaiter à nous-mêmes une sorte de bonne journée. Voilà, la journée commence bien, et parce qu'elle est tenue par ce rite. Et donc ça donne une sorte de possibilités, bien évidemment fantasmatiques ou programmatiques, que la journée se passe bien. Donc je pense que sur le fondement même de ce rite, oui, on renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de relier. Hein. Il est au fond religieux, même s'il n'est pas religieux. Il est sacré, même s'il n'est pas sacré. Il est fondamentalement profane, c'est-à-dire avant le temple, profanum, hein, c'est l'étymologie du mot. Le fanum, c'est le temple. À l'intérieur du temple, il y a du sacré. Là, voilà.
N'est-ce pas là, justement, le fruit de notre époque moderne et occidentalisée et scientifique? Parce que ces gestes-là du quotidien dans nombre de civilisations sont pour le coup sacrés. Je pense par exemple à la religion juive où le moindre geste est sacralisé et le moindre geste tend vers Dieu et ce ne sont pas du tout des gestes du quotidien. En tout cas, on essaie justement de les extraire des gestes d'un simple quotidien profane pour les rendre sacrés, le moindre geste. Je ne dis pas que c'est facile à faire.
Oui. Alors, bien évidemment, de temps en temps, il va y avoir une sorte de, je dirais presque de sursacralisation de certains gestes, dont on peut d'ailleurs se demander si, au fond, là, le rituel en tant qu'efficacité symbolique n'a pas un peu perdu de sa pertinence et si, dans une certaine mesure, le religieux ne se réduit pas au rite. Alors, dans le judaïsme, c'est très compliqué, puis il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui pourront en parler, bien évidemment, mais on peut reprendre, par exemple, dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, on pourrait dire l'essentiel de la religion hindouiste, c'est d'observer les rites. Il faut observer les rites. Voilà, on est un bon hindou si on observe les rites. On sent bien, là, il y a quelque chose qui pourrait être presque dénué d'une forme de spiritualité, d'interrogation sur le sens même de l'existence, d'autonomie de sa propre pensée, puisqu'au fond, pour être un bon religieux, il faut juste accomplir les rites. Donc vous voyez, il me semble là, même si le rite a sa fonctionnalité, s'il n'est pas ancré dans quelque chose qui est profondément intériorisé, moi, je trouve qu'il est un tout petit peu discutable.
Oui, évidemment, il faut l'intérioriser, mais ouais. Intérioriser le brossage de dents, c'est différent que d'intérioriser le lavage des mains parce qu'il a un sens, parce qu'on lui donne un sens profond.
Dans les monastères, hein, vous savez qu'il y a ces cloîtres, hein, les moines tournaient autour du monastère en chantant ou récitant des prières, et à l'entrée, il y avait en général une sorte de lavabo, qu'on voit encore dans beaucoup de cloîtres, où les moines se lavaient les mains. Et évidemment, il y avait là une dimension au départ probablement fonctionnel, hein, les moines rentrent des champs, ils vont à la prière, ils se lavent les mains. Et puis, il y a eu une dimension plus spirituelle qui est venue irriguer, qui est venue s'ancrer à l'intérieur de ce rite pour en faire quelque chose qui dépasse la fonctionnalité. Mais moi, je crois vraiment quand même que tous ces petits gestes de la vie courante sont aussi très, très importants. Regardez, vous, j'imagine que de temps en temps, vous avez des invités que vous recevez chez vous. Quand vous recevez des invités, ça ne peut pas être tout à fait la même chose que tous les jours. Vous allez, je ne sais pas trop quoi, mettre une table particulière. Vous allez sortir peut-être des couverts ou des assiettes particulières. Vous allez prévoir un petit apéritif ou autre chose. Et toutes ces choses-là qui sont apparemment un petit peu anecdotiques, qui sont là pour célébrer l'autre, ce sont aussi des rites, parce que finalement, ils ne viennent pas de notre propre imaginaire de l'instant, ils viennent de quelque chose qui appartient à une mémoire de l'humanité, à la mémoire d'une culture, et l'autre va le recevoir comme tel. Hein, je pense que c'est tout à fait important. Quand on offre un cadeau dans certaines occasions, quand on dit bonjour et quand on dit merci, ce sont des toutes petites choses qui sont au fond des rites, il me semble, mais qui ont à la fois une composante, comme je disais, très fonctionnelle de temps en temps, très de politesse, très relationnelle, mais aussi, je pense, très souvent une dimension extrêmement profonde, au fond avec une sorte de contenu du côté de la relation, du côté de la continuité, du côté du temps, et au fond, une part, je dirais, spirituelle, oui.
Alors, à quel moment s'articule le sacré, justement, dans le rite ?
Je crois, en effet, qu'il existe un rituel qui est authentiquement sacré et qui n'est pas religieux, même s'il est, on pourrait dire, même en particulier quand il est spécifiquement laïque. On en avait parlé, je crois, lors de la dernière émission, mais la fête nationale avec la remontée des Champs-Élysées, je repense récemment, par exemple, à ce qui s'est passé pour l'enterrement de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Voilà, il va y avoir des rituels qui vont être mis en place à partir du moment où il y a un événement qui est important. Et on voit bien là le mélange entre le sacré, c'est-à-dire au fond on pourrait dire l'enterrement d'un homme qui a eu une certaine importance dans la société, comporte une dimension sacrée. Alors là, il y a une partie qui est récupérée par le religieux, puisqu'en l'occurrence, cet enterrement a eu lieu dans une église. Mais malgré ça, il garde, il me semble, une dimension laïque, mais il est profondément un rituel. Mais je crois que c'est vraiment, en tout cas probablement dans le domaine religieux, que la dimension sacrée est la plus présente dans les rites. Là, il me semble que tout ce qui est tout à fait immuable, tout ce qui invite à une ouverture, à plus de spiritualité, à une transcendance, qui renvoie par exemple au mythe fondateur, pour le judaïsme que vous l'évoquiez, dans l'hindouisme on le disait aussi, dans la religion chrétienne c'est aussi très très important. Voilà, le rite par exemple de la messe chrétienne, c'est quelque chose qui est fondamentalement sacré.
Alors, ce caractère sacré peut avoir différentes fonctions, propitiatoires, expiatoires, de purification. Enfin là, la liste est longue.
Oui, le rite, il a cette fonction sacrale, c'est-à-dire il renvoie au sacré. C'est-à-dire qu'au fond, l'un de ses objectifs, c'est de dire, de souligner, de renouveler, de confirmer, d'amplifier le contact avec le sacré, c'est-à-dire avec cette sorte de source qui est vécue comme quelque chose qui est fondamental dans l'existence et qui nous donne un sentiment de sens par rapport à ce que l'on vit. Donc, en effet, de nombreux rites ont une fonction propitiatoire, c'est-à-dire qui est là pour préparer le terrain, on pourrait dire, ou expiatoire, c'est-à-dire avec une fonction de pour enlever la faute, pour enlever quelque chose comme ça, ou de temps en temps de remémorisation, de commémoration. Et on sait bien dans notre monde, par exemple, que ce désir de commémorer, surtout les événements héroïques ou tragiques, reste très prégnant. Et regardez, même si dans certaines familles on ne souhaite pas les anniversaires, dans beaucoup de lieux, dans beaucoup de communautés familiales ou autres, eh bien, on fête cet anniversaire. Donc je crois que dans le rituel, en particulier dans le rituel commémoratif, il y a un acte qui vient réinscrire cette régularité du temps à l'intérieur de nous-mêmes.
Il y a un devoir de mémoire.
Et voilà, ce devoir. Alors le devoir, il y a, je dirais, c'est une nécessité de la mémoire. En plus de la nécessité de la mémoire, il y a un devoir de mémoire qui est à ce moment-là un tout petit peu différent de la nécessité. La nécessité de la mémoire, c'est pour exister. C'est-à-dire, la mémoire, ce n'est pas les souvenirs. La mémoire, c'est notre présent intérieur. C'est ce qui détermine les grands choix de notre existence. Le devoir de mémoire, c'est l'idée qu'il y a une notion de transmission des arrière-grands-parents aux grands-parents, puis aux parents, puis à nous, à notre génération, puis à nos enfants, petits-enfants, etc. Et que ce devoir de mémoire est là parce que nous avons à transmettre un contenu de valeur.
Alors là, je vais revenir au rite purement religieux. Le rite raconte aussi une histoire, même si elle se perd parfois dans la mémoire de ceux qui le pratiquent. Mais je pense au rite du baptême, ça raconte toute une histoire de lumière, d'obscurité, de ténèbres, etc. Ces rites-là racontent une histoire à la manière presque d'un mythe. Ils ont été créés aussi parce que les hommes avaient besoin de réponses. Les rites peuvent aussi être une réponse aux mystères, simplement, aux énigmes de l'existence.
Peut-être là, on pourrait reparler en effet de ce qui pourrait au fond fonder et le rite et le mythe, qui serait la question du sens. Mais peut-être, puisque vous avez parlé du baptême et qu'on a parlé plusieurs fois des rites funéraires, On peut probablement peut-être parler ici de la question de l'angoisse, il me semble. Cette question de l'angoisse, elle est fondamentale. Je redéfinis pour les auditeurs trois mots qui sont importants, la peur, l'anxiété et l'angoisse. La peur, c'est un sentiment légitime qu'on a face à un danger qui est réel et objectif. L'angoisse, c'est quelque chose, l'anxiété, c'est quelque chose qui est un sentiment de peur face à un danger hypothétique et un danger qui vient essentiellement dans mon imaginaire. Et puis l'angoisse, c'est quelque chose d'extrêmement profond, c'est-à-dire c'est une sorte d'inquiétude de fond, sans qu'il y ait de circonstances extérieures objectives qui entraînent ma peur. Mais ce questionnement, il est sur mes propres origines, le sens de ma vie, l'avenir de ma vie, et puis cette angoisse par rapport à la mort. Donc je pense que ça rejoint ce qu'on disait en début d'émission. Je pense que probablement les premiers rituels ont été des rituels autour de la mort, des rituels funéraires, mais que ces rites renvoient toujours à une idée de répétition, de continuité, d'incantation, de scansion. Et parfois, la répétition d'un rite ou d'une conduite rituelle va fonctionner, mais, comme vous le disiez, on a oublié son origine, on a perdu son sens, parce que son formalisme, sa rigueur, son incapacité à s'adapter ou à se modifier et à évoluer font que le rite d'origine, enfin l'origine elle-même, a été perdue. Même si fondamentalement, probablement, le noyau de fond du rite, c'est l'angoisse humaine, c'est-à-dire l'incertitude sur son existence et la question du sens de la mort.
La perte de ce sens du rite n'est-elle pas justement aussi le fruit de notre société occidentale où on a le sentiment que dans d'autres sociétés africaines ou peut-être entre guillemets plus primitives, justement ce sens est extrêmement important et loin de se perdre, et bien que c'est nous qui, à force de désacraliser tout ce qui nous entoure, perdons finalement le sens de ces rites. Alors évidemment, je pense à Noël, je pense à la Toussaint, ce sont des rites qui ont basculé dans autre chose, en tout cas.
Alors, pour reprendre la Toussaint, sur le plan de la fête religieuse, c'est la fête de tous les saints, mais on sait bien que dans la culture de tout le monde, c'est associé à la fête des morts, normalement plutôt le 2 novembre. Mais on voit bien, puisqu'on sait très bien que c'est un des week-ends où il y a le plus de circulation, paraît-il, en France en tout cas, qu'énormément de gens gardent ce désir extrêmement vif, peut-être comme une sorte de devoir, peut-être comme une sorte de devoir de mémoire, mais aussi comme une sorte de fidélité extrêmement profonde à leurs ancêtres. Ils gardent le désir extrêmement profond d'aller voir leurs ancêtres dans les cimetières. Donc, par rapport à la Toussaint, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, sur le plan laïque, sur le plan profane, garde encore tout son sens. La fête de Noël, elle est en effet l'exemple type d'une sorte de dérive. Alors, en même temps, il faut se rappeler l'origine, c'est-à-dire la fête de Noël est d'abord et avant tout un événement qui est lié au solstice d'hiver. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire pendant très très longtemps, les hommes n'ayant pas conscience du cycle des saisons, ou en ayant peut-être largement conscience, peut-être depuis en effet très longtemps, mais dans l'incertitude d'une pérennité de ce retour du printemps, voyez l'arrivée de la nuit, comme actuellement, là, avec l'automne, l'arrivée de la nuit, comme quelque chose qui était extrêmement menaçant. Et le solstice d'hiver, c'est le moment où la nuit est la plus longue, et dans les rites latins, dans les rites romains avec les Saturnales, puis ensuite dans les rites chrétiens avec la fête de Noël, il a été décidé sur le plan symbolique que le Christ était né ce jour-là. Il faut l'entendre bien évidemment sur le plan symbolique, c'est-à-dire il vient apporter une nouvelle lumière. À partir de ce moment-là, les jours vont rallonger et on est rassuré. Alors, à partir de cette dimension-là, la société, je dirais, marchande, capitaliste, a proposé de vendre de la lumière. Et en même temps que de vendre de la lumière, elle a vendu du plaisir. Et comment vendre du plaisir au mieux? Eh bien, on vend des objets. Il y a eu probablement cette dérive qui est à partir du désir de... de retrouver des jours qui rallongent, on a proposé des objets. Hein. Donc on voit bien une espèce de, en effet, de perte de sens. Mais c'est important de penser que cette perte de sens n'est pas liée simplement à l'oubli de la nativité, mais est liée aussi au fait qu'il y a une angoisse profonde lorsqu'il fait encore nuire à 8h le matin et qu'à 16h30, il fait déjà nuit.
Eh bien, docteur Dominique Michel, nous allons nous arrêter sur cette dérive qui nous conduira dans 15 jours pour une prochaine émission sur le rite. Merci beaucoup.
Merci Simon. Au revoir.